Je prends la parole. D'abord, vous remercier parce que de m'avoir invité, de continuer à m'inviter à la DESM. Et puis, vous donner le réel plaisir que j'ai entendu de ce que j'ai entendu ce matin. Réel plaisir, vraiment. Pour moi, vous êtes tous des professionnels de la psychiatrie. Et pour une fois, parce que depuis quelque temps, je suis un peu fatiguée d'entendre parler psychiatrie, santé mentale, psychiatrie. Pour une fois, tu confortes ce que nous ressentons dans notre organisation, c'est-à-dire qu'il y a l'aigu, la psychiatrie, le soin, et là, on fait appel à vous, professionnels. Pour moi, professionnel, c'est autant directeur que soignant. Puis la santé mentale, qui est un autre sujet. C'est très important de les séparer. Je voulais rappeler aussi, pour le sourire, que une des trois associations qui ont fondé la FNAPSI en 92 s'appelait l'APSA, l'association des psychotiques autonomes stabilisés. Hein ?
Et qu'est-ce qu'il est devenu, cette association ?
Malheureusement, elle est morte de sa belle mort parce qu'elle n'a pas été soutenue. Mais là, on avait quand même... Alors, je dis toujours, quand vous voulez travailler avec la FNAPSI, nous ne sommes pas réactifs. Si on nous demande de réfléchir sur quelque chose, on en est assez incapable rapidement. Il nous faut du temps. Par contre, on est proactif. On est toujours au moins 4-5 ans en avance sur ce que vous sortez. Alors, ça nous amuse un petit peu. Bon, alors, je voulais m'adresser aux professionnels.
Tu étais invitée dans le travail.
Oui, mais là, tu sais très bien que depuis 3-4 ans, on nous a coupé nos moyens. Donc, ce n'est pas avec 23 000 euros sur toute la France que je peux faire quelque chose. Donc, voilà, hein, on fait ce qu'on peut, mais c'est très difficile pour nous de redresser la tête. Alors, je voulais vous demander beaucoup de choses. Soutenez, intégrez les associations de patients et de familles, puisqu'on recommence à travailler un petit peu ensemble avec la nouvelle direction, dans votre environnement, sur le terrain. Aidez-les à se développer. Faites-les travailler chez vous ensemble. On a besoin de ce soutien, première chose. Deuxième chose, je vous en supplie, revenez sur les soins somatiques et sur la VAP. On va, vous les directeurs d'hôpitaux, vous avez une vraie force de frappe. Et il faut aller au ministère, il faut discuter sur tout ce qui se passe. Quand je vois dans certains endroits, des soucis, notamment sur l'électroconvulsothérapie qui sort de la VAP et tout ça, il faut travailler là-dessus. Il faut bouger, il faut faire entendre votre voix. On est dans une société où si on ne crie pas, on n'est pas entendu. Alors, essayez de le faire. On a besoin de vous, nous. On a beaucoup de changements d'interlocuteurs également. Alors, bon, ça, c'est important. Repensez l'offre. Alors, ce que j'ai entendu, là, ce que tu dis, c'est ce que nous, on demande depuis tellement longtemps. Savoir où est-ce qu'on va se faire soigner, et puis le reste dans la vie. Et puis les hôpitaux de jour, etc. Ça, on a beaucoup à dire, tu le sais bien.
Oui, oui.
Et on est vraiment en totale phase avec ce que tu dis. Alors, c'est important. On a besoin de vous, mais il va falloir bouger ensemble. Je sais que quand vous retournez dans vos hôpitaux respectifs, vous êtes repris par le boulot, mais non, non, non. Il faut que vous gardiez un petit moment, je ne sais pas moi, 10% du temps pour ce travail-là. Voilà. Et surtout, soutenez-nous, autant nous, patients, que familles. Hein. On a besoin, chacun. On ne demande pas les mêmes choses, mais on travaille ensemble. Et merci de nous inviter.
Gilles, puisqu'on t'avait demandé justement pour les directeurs, oui. Ça fait écho de donner le ressenti qu'on pouvait avoir par rapport au rapport.
Oui, effectivement, merci Pascal. Oui, donc je vais essayer de synthétiser quelques commentaires par rapport à ce rapport, effectivement, qui est extrêmement riche. Hein, et donc vraiment, avant de lire le rapport de l'IGAS, il faut vraiment lire le rapport qu'a piloté Marie-Christine Hardy-Bellé. Moi, j'ai envie de faire se rejoindre un des constats du rapport, c'est-à-dire l'écart qui existe entre le niveau de preuve et puis la pratique de terrain. Donc ce constat est le rapprocher d'une observation qui a été faite hier par le docteur Saunier sur l'écart entre les questions que se posent les soignants et celles que se posent, en l'occurrence c'était les parents pour l'autisme, mais j'ai envie de dire les patients ou leurs associations. Et c'est effectivement quelque chose qu'on peut constater en tant que professionnel, c'est que de temps en temps, les professionnels tiennent un discours, se posent des questions, et puis les usagers ou les familles viennent leur dire « mais dites, notre problème principal, c'est pas là ». Alors, je pense que si on fait évoluer les modes de prise en charge vers ceux qui ont le plus d'efficacité, documentée, et qui sont ceux aussi qui donnent le plus de niveau de satisfaction aux personnes suivies, je pense que ça permettra de faire baisser le niveau de controverse dans la psychiatrie, quand même très, très friande. Ça aidera à orienter les projets d'établissement, et en particulier, ça nous aidera, nous, les chefs d'établissement, à injecter plus facilement des orientations dans nos communautés médicales. Et puis, évidemment, ça aidera à mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Alors, ce qui me frappe, c'est que si on veut monter dans le train européen vers le rétablissement, y a vraiment une nécessité de faire évoluer en profondeur la culture professionnelle dans le sanitaire. Bon, certainement aussi dans le médico-social, voire dans le social, mais pour ce qui nous concerne dans le sanitaire. Il y a toute une série de points dont vous avez évoqué certains, mais il y a la nécessité donc de s'approprier ces techniques nouvelles, mais non pas comme rival des modes actuels de prise en charge, mais comme complément. Or, on a l'impression, quand on parle avec certaines équipes, que c'est perçu comme des techniques de substitution et non pas des techniques qui viennent en renfort. Il y a ce premier point. Il y a la nécessité de changer de modèle, c'est-à-dire de passer de la stabilisation clinique comme un but en soi à la stabilisation clinique qui est vécue comme un moyen vers le rétablissement. La nécessité de se recentrer sur le cœur de métier et de renoncer à être le donneur d'ordre. Bon, je dirais que sous cet angle-là, certaines perspectives des groupements hospitaliers de territoire qui, à mon sens, risquent de renforcer l'hospitalo-centrisme ne vont pas forcément dans le bon sens. L'idée d'apprendre à partager avec d'autres la responsabilité du parcours et en particulier avec les travailleurs sociaux. L'idée de renoncer à des a priori stigmatisants, puisque le rapport souligne que les professionnels eux-mêmes peuvent avoir des a priori stigmatisants. Et ce sont les croyances des professionnels elles-mêmes qui sont en quelque sorte des prophéties autoréalisatrices vers l'échec de certains modes de prise en charge. Et dans le rapport est évoquée notamment la possibilité pour les personnes d'avoir une activité professionnelle. Et puis on ajoutera aussi même que la nécessité d'avoir non seulement un changement de culture, mais parfois une rupture, dans le sens où l'innovation est une rupture. Comme chacun sait, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en perfectionnant la bougie. Et donc le rapport cite, notamment dans le domaine du logement et dans le domaine de l'insertion professionnelle, la nécessité même de rompre par rapport à des fonctionnements actuels. Alors, pour autant, les obstacles sont importants. Hier, on parlait de réticence idéologique. Bon, je pense qu'il y a d'abord, dans notre pays, un intérêt pour le débat théorique sans toujours porter beaucoup d'intérêt aux aspects pragmatiques et aux conséquences concrètes. Je ferai référence aussi à l'amour de l'égalité, parce que la sectorisation telle qu'elle est portée par la circulaire de 60, c'est quand même un modèle de planification tout à fait uniforme et jacobin. C'est l'égalité de tous à l'intérieur d'un périmètre géographique. Et on voit quand même qu'il y a des réticences, c'est-à-dire qu'on considère dans ce modèle que tout le monde doit être pris en charge d'une manière assez égalitaire. Et quand on discute dans une CME, par exemple, de traitements différenciés pour les personnes qui ont des troubles sévères et persistants par rapport à ceux qui ont des troubles fréquents, on voit ce qu'on peut appeler des mouvements divers dans l'assistance. Donc c'est pas vraiment acquis, cette notion de traitement différencié. Bon, parmi les difficultés, j'évoquerai aussi la situation de crise de la psychiatrie publique à l'heure actuelle, puisque bon, un modèle historique quand même uniformisateur, mais très, très, très inégalement appliqué. Pas vraiment d'orientation de la politique générale depuis 25 ans. L'incertitude des financements, donc je dirais que tout ça, c'est, c'est sans doute plus propice au repli qu'à l'innovation. Et je pense que les professionnels, ils ont besoin d'être rassurés pour innover. Donc ça peut générer un certain repli sur le secteur, en tant que, il faut le rappeler, modèle médical. Et on voit aussi les lenteurs au déploiement de l'évaluation des pratiques professionnelles, au retour d'expérience par rapport aux événements indésirables graves. Donc on voit que c'est un petit peu compliqué. Alors heureusement, il y a un certain nombre de porteurs d'innovation. On a vu ce matin et hier que nombreux d'entre eux sont quand même bien articulés avec les secteurs. Mais on voit aussi des endroits, et moi j'en connais, où les porteurs d'innovation sont un peu comme des francs-tireurs. Parfois perçus comme des perturbateurs, voire comme des gens qui contribuent au naufrage du dispositif de la sectorisation. Et en plus, dans un contexte de contraintes financières, ça n'aide pas non plus. Donc, heureusement, on a des points d'appui. Hein. Bon, on a des points d'appui, c'est la loi de 2005, hein, avec le changement de paradigme qu'elle induit. On peut espérer qu'à travers la loi de santé, il va aussi se passer un certain nombre de choses. Les MDPH sont aussi un point d'appui en tant que coordination, mais on voit qu'elles-mêmes, elles sont quand même, si j'ose dire, handicapées pour aborder le handicap psychique, et elles ne savent pas trop faire, et on sent qu'elles sont vraiment en difficulté. Donc il faudrait les aider à nous aider. Hein. Voilà. Mais je crois que ça ne fait que renforcer le besoin qu'on a d'une politique de santé mentale au niveau national. Hein. Alors il y a un comité national... Et tout à l'heure, il y a un comité national qui va se mettre en place et on espère qu'il va nous aider. On a besoin de l'application des ARS. On a besoin aussi de renforcer les formations. Et puis, on a besoin que les utilisateurs, les familles nous aident à secouer le cocotier.
Merci. Bah, du coup, je vais rebondir. Hein. Moi, ce que je retiens de cette journée, parce que je suis arrivée que hier après-midi, c'est d'abord la nécessité d'alimenter les savoirs. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il est important qu'il y ait une recherche de qualité, à la fois une recherche fondamentale, mais aussi une recherche clinique. Et je pense que les fédérations régionales auront un rôle à jouer par rapport à cette alimentation des savoirs. Mais on voit très, très bien qu'il ne suffit pas d'alimenter les savoirs, que pour que ça passe dans le domaine des soignants, eh bien, il faut des centres de preuves. Il faut effectivement que ces savoirs soient diffusés et qu'ensuite les soignants puissent se les approprier. Et cette diffusion, elle ne doit pas être faite uniquement au niveau des soignants. Cette diffusion des savoirs, je pense qu'elle est extrêmement importante, qu'elle soit également faite au niveau des patients, au niveau des familles et au niveau du grand public, car elle participera, je pense, à la déstigmatisation. Et on a très, très bien vu hier l'importance de la déstigmatisation pour faciliter l'accès aux soins, en tout cas pour se permettre d'aller aux soins. Quelqu'un qui est malade, en particulier au début de sa... On a vraiment discuté hier de toute cette période des prodromes où il est extrêmement difficile pour un jeune, extrêmement difficile pour la famille d'accompagner la personne aux soins. Alors, puisqu'on n'arrive pas ou mal à accompagner vers le soin, je pense qu'il est extrêmement important que le soin vienne vers les personnes. Et là, je pense que je ne viens pas vous donner la solution parce que moi-même, je ne l'ai pas. Hein. Donc, alimenter les savoirs, les diffuser. Et puis ensuite, le grand troisième point, à mon avis, c'est les appliquer. Et là, on voit, enfin, en tant que famille, hein, toute la résistance. Hein, résistance des équipes et puis résistance globale du système, j'ai envie de dire. Hein. Et qu'il va falloir encore du temps, même si sur les 50 années qui viennent de se passer, il y a déjà beaucoup de choses qui ont évolué. Je pense que dans cette résistance, eh bien, il est toujours difficile d'accompagner le changement. Et je crois que c'est de votre responsabilité d'accompagner le changement. Et on sera là à côté de vous. Et puis ce changement, dans quelque chose que nous, on souhaite... c'est que quand même il y ait une égalité de l'accès aux soins et égalité de l'accès aux soins d'excellence. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas une égalité sur l'ensemble des territoires. Ça, il ne faut quand même pas se voiler la face. Je pense que enfin, en tant qu'observatoire, l'UNAFAM est représentée dans tous les départements français. Donc, on a mené un observatoire des bonnes pratiques. Et on voit très bien qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'inégalités sur l'ensemble du territoire. Moi, je suis persuadée que la réhabilitation va modifier le regard que l'on porte sur les personnes et que ces personnes vont trouver leur place dans la cité. Je tiens à dire aussi que les familles, on n'est ni un établissement de soins, c'est pas la peine, et on n'est ni du médico-social et on n'est ni vraiment le social, mais qu'on fait partie de l'environnement de la personne, et soigner quelqu'un sans tenir compte de son environnement, je pense que de toute façon, on va à l'échec. Et donc cet environnement familial, il a besoin d'être formé, il a besoin d'être écouté. Alors vous allez dire que je vous demande beaucoup de choses, mais en même temps, c'est vrai. Hein, on est un environnement, on fait partie de ce qui va permettre à la personne de rester dans son milieu social. Et à ce titre-là, eh bien, effectivement, on a besoin d'être entendu quand c'est nécessaire et on a besoin d'être accompagné. Donc, je n'irai pas plus loin. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Je vais passer la parole à M. Robillard.
Bien. Bon, merci, M. le Président, de me donner la parole. Moi, honnêtement, j'aurais pu ne pas parler, puisque je crois qu'un... Un député doit savoir écouter. Et j'espère vous avoir au moins apporté cette démonstration qu'un député serait-il avocat dans le civil et capable d'écouter. Après, si je ne prenais pas la parole à ce moment-là, on me dirait que ce n'est pas une présidence normale. Par conséquent, je le fais à minima. Moi, ce que j'ai retenu pas mal de choses de cette matinée. D'abord qu'à la DESP, on avait le sens des risques. Ou le sens du risque, parce que quand même, inviter Mme Hardi-Bellet qui vous explique qu'il faut fermer les établissements...
Je n'ai pas dit ça.
Mais non, vous n'avez pas dit ça, je sais bien.
Vous avez fait mal avec tout le monde, monsieur de Orbillard.
Mais je fais un peu de provocation, avec mais il y avait un petit peu de quelque chose équipes. Comme ça par rapport aux hôpitaux, et qui m'a semblé avoir entendu, mais même peut-être pas avec cette radicalité-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais vous n'appelez pas association de directeurs d'hôpitaux. Mais d'établissements. Et c'est bien la pub. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut, arriver à bien penser, je pense que c'est quand même l'histoire du secteur, que c'est la fonction publique hospitalière qui est à la manœuvre, c'est plus nécessairement l'hôpital. Et qu'il faut qu'on puisse faire la distinction, c'est bien le service public avec sa fonction publique, mais c'est plus nécessairement l'hôpital. Et je crois que c'est une distinction qui est très importante. Et je trouve qu'elle a été magnifiquement illustrée par les derniers exposés, pas simplement celui de Mme Hardi-Bellet, mais quand on a travaillé sur le rétablissement, quand on a travaillé sur la place des familles et l'éducation thérapeutique des familles, je trouve qu'on était dans ce sens-là. Après, j'ai beaucoup apprécié aussi les exposés sur les deux fédérations de recherche, parce que la recherche fondamentale, c'est fondamental. Mais la recherche clinique, c'est très important. Et que de ce point de vue, il y a une richesse de recherche dans les fédérations régionales qui est essentielle. Il n'y a pas que la recherche d'ailleurs clinique qui me paraît à l'œuvre. Il y a aussi de la recherche-action. Ça me paraît très clair sur la base de l'expérience de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais. Et l'articulation avec El Barreau, auquel je peux être que sensible, et l'École supérieure du journalisme, me paraît importante. Maintenant, je dirais simplement sur le journalisme que c'est à peu près comme pour les politiques. Si vous leur interdisez d'utiliser le mot parano, ils ne vont plus s'en sortir. Hein. Bon. Et que malheureusement, je crains que le langage psychiatrique continue d'être utilisé à des fins qui ne sont pas les siennes et pour des qualifications qui ne devraient peut-être pas être prononcées, mais ça... Je crois que c'est un combat perdu, et peut-être qu'il faut faire avec la conscience qu'il est perdu pour voir comment on s'en sort avec. Bon. Bon, voilà, c'est à peu près ces éléments-là, moi, que je voulais donner, parce que je crois que, d'un point de vue politique, ce que fait... Moi, je suis avocat, moi. Donc j'ai un rapport au droit constant. Pour moi, le droit, c'est un outil, pas une fin. C'est vrai que la loi peut donner des principes. Elle doit faire la limite entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, entre le permis et l'interdit, donner des directions. Mais la loi, ce n'est pas une politique. La politique, c'est un ensemble, et que la loi n'est qu'un des éléments de manifestation de cette politique. Et donc, on ne trouvera pas tout dans la loi de santé, et que, personnellement, je n'ai jamais été favorable à ce qu'il y ait une loi de santé mentale. Je préférais qu'on s'attache aux dispositions de santé mentale, aux dispositions relatives à la psychiatrie qui figurent dans la loi. Et il me semble que, même si ce n'est pas parfait, que ce qu'il y a dans la loi de santé qui est en cours de discussion, puisqu'elle a été examinée en deuxième lecture, enfin en nouvelle lecture, mais ça, je ne vais pas vous faire un cours de procédure parlementaire, même si c'est absolument somptueux comme matière. En nouvelle lecture, on l'a examiné en commission cette semaine et on l'examine en séance la semaine prochaine. L'article 13, me semble-t-il, réaffirme la nécessité du secteur, et je l'ai entendu réaffirmer, Madame Hardibellé, dans ce que vous avez dit également. Ça me paraît important, même si après, le secteur, dans la clarification des rôles entre le social et le sanitaire, et l'appel à la non-confusion, j'ai entendu des choses qui me paraissent également tout à fait importantes. Bon, donc voilà pour vous dire toute ma satisfaction. J'en ai une dernière de satisfaction, c'est que chaque fois que je viens dans un colloque de psychiatrie, je note consciencieusement tous les nouveaux acronymes que je ne connaissais pas. Et que là, que je dois dire que la moisson est particulièrement riche ce matin. Et donc, je tenais à vous dire que cette matinée avait été top, et ça ne veut pas dire trouble obsessionnel probatoire.
Merci beaucoup à vous tous. C'est vrai que la réhabilitation est prolixe ou prolifique en la matière.